que tous entendent sa voix. J'aimerais avoir avec vous quelques secondes de prière. La prière ouvre le cœur de Dieu et aussi notre cœur, car l'Évangile, c'est une relation entre Dieu et nous. On ne la veut pas toujours, on fuit. Je ne suis pas croyant, je ne suis pas pratiquant, mais c'est la relation la plus vitale. Avant les relations humaines, du mariage, des enfants, seul Dieu donne la vie. Si vous voulez, nous allons nous lever quelques instants à notre place et nous allons prier Dieu ensemble. J'aimerais simplement lire ce verset de la Bible pour introduire la prière. Le Seigneur prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, c'est étonnant comme langage, des mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, le Seigneur anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Le Seigneur engloutit la mort pour toujours. Là, on comprend. Nous allons prier devant ce texte que nous allons lire maintenant sur l'Évangile. Tu nous appelles, Seigneur, à venir à toi, parce que tu es le seul à pouvoir nous donner ce que nous cherchons avec l'argent, l'intelligence et mille forces impossibles, la vie qui dure, la vie paisible, éternelle. Et toi, tu la possèdes, tu es le Dieu qui donne la vie. Et je voudrais dire, comme l'apôtre Pierre, quelques heures avant ta mort, « Seigneur, à quel autre irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Parle-nous en cet après-midi par le Saint-Esprit et par la parole. Amen. » Je vous invite à vous asseoir, mes amis. Permettez-moi donc de vous inviter à lire dans l'Évangile selon Luc cette histoire si proche de nous, l'histoire du repas. Luc chapitre 14, verset 15. Luc chapitre 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier. » Et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Amen. Si vous me demandiez, dessine-nous le royaume de Dieu, le ciel, le paradis, qu'y a-t-il après, là-haut ? Dessine-nous le royaume de Dieu en 2 secondes. C'est beaucoup. C'est beaucoup me demander. Je pense que je ferai une table. Je dessinerai une table. Car Jésus, pour nous parler de ce royaume mystérieux qui vous attend, vous et qui m'attend, il a parlé d'un repas. Et quand on parle de repas dans le royaume de Dieu, ça veut dire du repos, être ensemble, partager, comme on dit aujourd'hui, convivial. C'est un mot rassurant, c'est un mot qui nous rapproche des choses de la terre, c'est un mot qui n'est pas loin de nous, le repas. Oui, le royaume de Dieu, c'est un repas. Je ne vous dis pas que vous mangerez du matin au soir, mais nous serons ensemble comme un immense banquet. Il a dressé une table, il a préparé un royaume où nous allons nous réjouir et partager une vie nouvelle. C'est lui qui a tout fait. Tout est déjà prêt. Parfois, les gens disent, voulez-vous que je vous amène une douzaine d'œufs ? Tout est déjà prêt. Il n'y a pas de cadeau à apporter. Le repas est tout fumant. Tout est préparé. Le Seigneur en est l'architecte, le constructeur. C'est lui le cuisinier. Il a tout préparé. Et puis un jour, évidemment, ils ont été invités, ils savent d'avance, je le sais d'avance, vous aussi. Puis un jour, il y a un moment donné où, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, de portable, il n'y avait pas de moyen de communication que d'aller aux portes en disant « c'est l'heure du souper, on vous attend, voulez-vous me suivre ?» Eh bien, ce maître, ce grand maître du ciel a envoyé son serviteur pour dire à tous les invités, venez, tout est déjà prêt. Ce serviteur, c'est le serviteur souffrant des évangiles. Ce serviteur, c'est celui dont on a tiré la barbe, sur lequel on a craché, sur lequel on a porté notre haine, notre mépris, que l'on a humilié. C'est lui, le serviteur, l'envoyé du Dieu unique, du Dieu de l'univers, qui passe dans les chemins des hommes, qui passe chez vous, qui passe dans votre maison, qui passe dans votre travail, partout, et qui dit à chacun, venez, venez, tout est déjà prêt. Il voit Bartimée dans sa misère de mendiant aveugle, dans l'ombre de la mort, et lui dit, appelez-le, venez, tout est déjà prêt. Il appelle. Il n'attend pas le dernier soupir. Il n'attend pas l'extrême fin de la vie. Il va chercher Pierre, Jacques, Jean, en pleine jeunesse, en pleine force de l'âge, dans leur barque de pêcheurs. Et à ces hommes, pleins de vigueur, il leur dit, venez, tout est déjà prêt. C'est l'heure de vous mettre en route. C'est l'heure de me suivre, c'est l'heure de croire pour le bonheur de votre vie. Ne portez pas attention aux insensés, aux incrédules qui disent « il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien ». Venez, venez, tout est déjà prêt. Et vous qui avez faim, vous serez rassasiés. Et vous qui souffrez, vous serez consolés. Et vous qui pleurez, vous serez dans la joie. Venez. Mais déjà maintenant, nous vivons ce royaume d'en haut, sur terre. Car Jésus disait, le royaume est déjà au milieu de vous, il est là. Jésus est là et le royaume est là. Vous qui êtes pauvres, qui n'avez rien dans la vie, mais le royaume est à vous, venez, votre place est préparée. C'est l'heure de Dieu, c'est l'heure de se mettre en route. Souvent, nous disons devant ceux qui meurent, devant ceux qui partent, « Ah, c'était son heure, c'était son heure ». Souvent, nous disons cela, je l'ai souvent entendu, c'est-à-dire l'heure de la mort. Parce que pour nous, les êtres humains, mortels, notre heure, c'est la dernière, c'est étonnant. Alors que pour Dieu, avez-vous pensé à l'heure de Dieu ? Pour Dieu, l'heure, c'est la première. C'est l'heure qui commence une vie, une nouvelle vie. L'heure de Dieu, ce n'est pas l'agonie finale. C'est aujourd'hui, une nouvelle destinée peut commencer pour chacun de nous. Alors Jésus va de lieu en lieu, dans des lieux parfois déserts, dans des lieux où l'on est chargé de problèmes, de soucis, de bonheur, de joie, d'argent, où il ne manque rien, où il manque tout. Mais partout, le Seigneur dit, ce sont des brebis perdues. Parce que même avec tout l'argent du monde, si nous n'avons pas la vie qui dure, la vie qui se prolonge, la vie qui va dans le royaume là-haut, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si même nous vivions très longtemps, la longévité ne fait pas le bonheur, et les richesses d'en bas n'assurent pas un bonheur parfait sur terre. Alors il dit, il nous réveille, il nous bouscule, il ouvre nos yeux fermés par les ténèbres de ce siècle, nos yeux fermés par tout ce qui nous crève les yeux, et il nous dit à chacun, venez, tout est déjà prêt. Il nous bouscule. Il a bousculé Jacob, un patriarche de la Bible, qui vivait, pourquoi ? Pour ses enfants, pour ses troupeaux de moutons. Il avait beaucoup de moutons. C'était un berger. Et il gagnait des moutons sur moutons. C'était sa vie, sa passion. Et une nuit, Dieu a lutté avec lui pour lui montrer qu'il y a plus que des moutons, plus que les joies de la terre, pour lui montrer qu'il y a Dieu qui l'appelle. Venez, tout est prêt. Et à la fin de la nuit, ce Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Voilà, venez, tout est prêt. Bien sûr, il pourrait nous appeler d'un seul mot. Il n'est pas nécessaire qu'il passe de maison en maison. Chez vous, chez le voisin, partout, venez, venez, venez. Un seul mot et l'église est remplie. Toutes les églises sont remplies. Un seul mot et le ciel est rempli. Parce que nous avons vu Jésus devant Lazare qui crie « Lazare, sors !» Et Lazare est sorti. Il peut le faire avec tout le monde et nous emmener tous chez lui. Comme ça, qu'on le veuille pas, tant pis pour vous, vous partez chez lui. Non. Ce jour arrivera où il dira à tous ceux qui sont dans les tombeaux de sortir. Mais aujourd'hui, sans élever la voix dans les rues, sans crier, sans hurler, juste une voix pour que notre cœur l'entende, le Christ nous dit à tous, venez, tout est déjà prêt pour ton avenir, pour ta vie, pour ta paix, pour ton cœur. Pourtant, il a le pouvoir. Dieu, son Père, lui a donné tout pouvoir sur toute chair. Il fait ce qu'il veut. Mais on ne peut pas donner, on ne peut pas contraindre quelqu'un à aimer, contraindre quelqu'un à croire, contraindre quelqu'un à entrer chez Dieu. Il dit, si tu veux venir, si tu veux croire, si tu veux aimer, si tu veux, venez. Il nous amène au but de la vie. Le but de la vie, je l'ai trouvé dans l'Ancien Testament, je le trouve partout dans la Bible. Le but de la vie, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu respectes le droit des autres. Tu ne méprises pas le travail des autres, tu ne méprises pas la personnalité des autres. et que tu aimes agir avec bonté, pas agir à contre-cœur, mais avec bonté, et que tu suives avec soin le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'indique. Ça, c'est le but. Venez à ce but. Dans tout ce qui existe, rien n'est un but hors de ça. L'argent n'est pas un but, la santé n'est pas un but. Les bonheurs de la terre ne sont pas des buts en soi. Seul Dieu, Père, Sauveur, Dieu de miséricorde, est notre but dans la vie. Seul lui. Tous les autres chemins ne vont pas là, ça mène pas si loin. Tout chemin sur la terre nous montre qu'il y a autre chose après. Nous vivons pour autre chose, pour un autre but. C'est comme l'abeille qui butine dans les fleurs. Bientôt, ça va commencer la grande farandole des abeilles. Elle butine, que fait-elle? Elle va chercher le miel, elle va chercher les commissions, mais en même temps, elle amène le pollen, elle féconde les fleurs en même temps pour que les fleurs demain deviennent des fruits. Elle travaille pour une suite, elle travaille pour l'avenir. Tout est porté vers un autre, un avenir, un ailleurs. C'est dans tout ce que nous vivons. L'apôtre Paul dit, si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Quoi que nous fassions, c'est pour autre chose, c'est pour aller plus loin. Venez, dit Jésus, venez. Tout est déjà prêt. Qu'a-t-il préparé? Quel est le menu du royaume des cieux? Est-ce que ma place sera bien chaude, bien gardée? On ne sait pas tout. Hein. On ne sait pas tout, mais on lui fait confiance. Parce que celui qui nous appelle, c'est lui qui guérit toutes nos maladies. C'est lui qui nous délivre de la faux, c'est-à-dire de la peur. C'est lui qui nous fait rajeunir comme l'aigle, qui nous redonne des élans de vigueur. C'est lui qui anéantit le voile de mort, qui couvre tous les foyers, toutes les maisons, tous les mariages heureux, ou les mariages malheureux. C'est lui, ce voile, il l'a déchiré. Donc je lui fais confiance pour l'avenir. Je ne sais pas, mais je lui fais confiance. Quand je connais l'architecte, je me dis, il ne peut pas nous tromper. Il n'a pas l'esprit biscornu. C'est quelqu'un de sérieux. Jésus fait ce qu'il promet, et tout ce qu'il promet se réalise. Jésus donc nous appelle. Venez, c'est l'heure. Le serviteur passe dans les maisons, dans les rues. « Oh, excusez-moi, je viens d'acheter 5 paires de bœufs, ça fait 10. Il faut que je les essaye au labourage. C'est urgent, je ne peux pas venir à votre grand souper. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je vais passer à l'autre, soyez sans crainte. Votre voisin va venir, lui. Excusez-moi, je viens d'acheter un champ. Hier matin, une bonne affaire. Là, vraiment, j'ai réussi. C'est l'affaire de ma vie. » Le champ, il faut que je le visite, il faut que je le regarde. Qu'est-ce qu'il est? Comment ça se passe? Excuse-moi. Bon, je vais passer ailleurs. Troisième maison. Oh, excuse-moi, je viens juste de me marier. Ça tombe mal, hein. Je viens juste de me marier. On s'est marié hier matin. Alors, on va partir en voyage, on est content. Non, franchement, je ne peux pas me permettre de manquer ce bonheur du mariage et d'aller avec vous. Je ne sais pas où, en fait. Vous allez où? Je ne connais pas votre pays. Tous, unanimement, on a l'impression qu'ils se sont donné le mot, tous se mirent à s'excuser. Et le Seigneur, là, nous prévient dans cette parabole. Le Seigneur passera dans votre vie aussi, et vous trouverez des obstacles. Vous trouverez des choses qui vous feront hésiter, qui vous feront reculer, qui vous tiendront comme un filet, un harnais. Et l'appel du Seigneur ne retentira pas dans votre cœur, parce que vous aurez les yeux pleins des richesses passagères de la terre. Vous passerez à côté de l'essentiel. Attention, dit le Seigneur, Quels sont ces obstacles qui ont retenu les gens? Parce que dites-moi, acheter des bœufs ou une voiture ou une trottinette, un vélo, il n'y a rien de grave. Ce n'est pas un péché. Se marier n'est pas un péché. Acheter un champ, faire des affaires, réussir, ce n'est pas un péché. Alors pourquoi ont-ils échoué à la dernière marche là? Il n'y avait plus que le oui à dire. À la dernière marche, ils ratent leur éternité. Ils ont manqué parce que ils ont fait passer leur priorité avant la priorité du Seigneur. Ils ont fait passer leurs affaires, qui sont des affaires toutes secondaires, par rapport à au grand rendez-vous avec Dieu. Ils ont fait passer leurs affaires en premier. Ils ont mis en premier leur vie et en second Dieu qui donne la vie. Je viens de me marier, j'ai acheté. On a l'impression que c'est le temps de Noé. Au temps de Noé, le pauvre Noé, il s'efforçait tous les dimanches et certainement toute la semaine. Il s'efforçait de prêcher l'évangile à tous les gens qui étaient autour de lui. Et on disait qu'il y aurait un déluge. Mais les hommes continuaient de se marier, de marier leurs enfants, de manger, de boire, d'acheter des terrains et des bœufs, etc. Et des voitures. Et le déluge est venu. Et ils ne sont pas rentrés dans la salle des noces. Alors que cette parabole veut dire, tous ces invités-là, c'est comme s'ils disaient « je n'ai pas le temps ». Je n'ai pas le temps, je préfère ce que je fais. Je ferai ce que je veux. Je visiterai mon champ, je visiterai mon jardin, ma voiture, mon travail, je visiterai ma famille, je ferai ce que je veux, mais je n'ai pas le temps d'aller à votre repas avec un grand roi là-haut, quelque part dans le ciel, pour l'éternité des siècles. Je n'ai pas le temps d'entrer dans l'éternité. C'est étonnant, c'est des aberrations. Je n'ai pas le temps d'être éternel. C'est étonnant. Peut-être que nous ne le disons pas, mais nous le faisons. C'était leur prière. Ils ont dit, je te prie, c'est ma prière. Notre Père, laisse-nous comme nous sommes. Laisse-nous avec nos champs et nos bœufs et nos mariages et nos repas. Laisse-nous, parce qu'on ne veut pas aller là où tu nous attires. C'est le péché. Quand on était enfant, on essayait de nous faire comprendre le péché. Alors il y avait un péché à chaque fois qui tapait dans mon cœur. Le péché, c'est manger trop de confiture. Là, j'étais pécheur, j'étais coupable. On a montré le péché sous un angle très matérialiste, très naturaliste, très, très terrestre. Mais le péché, c'est résister à Dieu. C'est dire, tu m'appelles, mais non, je n'ai pas le temps. Le péché, c'est se croire maître de son destin. Le péché, c'est refuser d'entendre celui qui nous parle du haut des cieux, dit l'Épître aux Hébreux. C'est ça le péché. On dit parfois que le péché amène le malheur. Je ne vais pas dire comme ça. Je vais dire le péché, c'est un malheur, lui-même. C'est dire non, je lâche ta main, je vais garder la main sur mon bœuf ou sur mon champ. Sur mon mariage, je lâche ta main. Voilà jusqu'où peut aller quelqu'un qui, dans son cœur, ne refuse l'appel du Seigneur. Jésus-Christ, quand il était en Israël, quand il traversait les villages de Galilée sous un soleil de plomb, un soleil brûlant, il disait aux foules qui le suivaient, « Je suis la lumière du monde ». Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Personne ne riait sous un soleil de plomb. Il disait « Je suis la lumière ». Personne ne riait. Parce que le soleil n'éclaire pas tout. Ça ne réchauffe pas votre cœur blessé par un chagrin, un deuil, une maladie. L'intelligence n'éclaire pas tout. L'argent n'éclaire pas tout, ne réussit pas dans tout. Il a appelé un jour un jeune homme qui avait tout pour plaire. La jeunesse, la beauté, la morale, les qualités, l'intelligence, des biens. Il avait tout pour plaire. Suis-moi. Il a dit la même chose. Et ce jeune homme a préféré garder tout ce qu'il avait. Ne réduis pas ta vie à un présent qui ne serait pas ouvert au futur. Un présent où profite sans ouverture sur le futur. N'enfermons pas notre vie dans la banalité. Ne fermons pas notre vie aux réalités éternelles. Demain, nous serons tous devant Dieu. Ou ce soir, en tous les cas, un jour. Alors, ils ont tous refusé. Et le serviteur est revenu vers son maître, son père, et lui a dit, ils refusent tous. Ils sont tous heureux. Tous heureux sans toi. Et ils refusent. Le Seigneur a envoyé son serviteur en lui disant, va dans les rues, va sur les places de la ville, place de la mairie, place du Champ Jacquet. Puis là, tu vas voir des mendiants, des estropiés, des aveugles, tu vas voir des sourds, des gens misérables. Eh bien, amène-les ici. Ils ont dit oui. Vous allez me dire, mais pasteur, je ne suis pas pauvre, je ne suis pas mendiant, je ne suis pas aveugle, je ne suis pas sourd, je ne suis pas estropié. Est-ce que l'Évangile s'est fait que pour les estropiés, les infirmes? La pauvreté n'est pas qu'une question matérielle. La pauvreté, je pense que c'est notre vie mortelle, qui n'est pas permanente, qui est très légère, très fragile. Une goutte d'eau peut nous tuer, une goutte d'eau peut nous tuer. Les pauvres de l'Évangile ici, que le serviteur a été chercher par dizaines, par centaines, par milliers, je pense que c'est chacun de nous. Si nous nous regardons bien dans le miroir de la Bible, parce que les boiteux dans le cœur, c'est bien nous. Les aveugles qui ne voient pas l'avenir et pas rien, c'est nous également. Les sourds qui n'entendent plus la voix de Dieu, la voix des parents, la voix de la maman, c'est nous. La Bible dit, tu ne sais pas que tu es pauvre, tu ne sais pas que tu es aveugle, tu ne sais pas que tu es nu. Nous sommes pauvres et nous ne le savions pas. Un rien peut nous basculer dans l'infirmité, la maladie, la mort, la dépendance. Nous sommes pauvres, nous ne tenons rien, nous sommes dans un monde mouvant qui n'est pas permanent, rien n'est permanent. Alors il faut dire, Seigneur, devant ma pauvreté, je réponds oui, Seigneur. J'ai besoin de solidité, de certitude, j'ai besoin d'assurance. Demain, je serai peut-être sur un lit en train de mourir. J'ai besoin d'assurance, savoir où je vais, ce que je suis. Quand je vois le Christ sur la croix, je vois l'humanité dans la profondeur du mal. Parce que la croix, c'est le mal que nous avons commis. Quand je vois Jésus en croix, je dis, voilà la profondeur du mal, mais voilà la hauteur du bien aussi. Parce que Jésus en croix, c'est Dieu qui nous crie son amour, qui nous dit « la porte est grande ouverte. Aussi loin êtes-vous allés, vous pouvez tous revenir. » C'est la hauteur de l'amour de Dieu et la profondeur du mal des hommes. Alors, le serviteur a ramené des malheureux à l'appel. Ils ont dit oui. Puis après, il y avait encore de la place. Et le maître a dit « bien, va dans les chemins, va le long des haies, c'est-à-dire va aux extrémités, aux frontières, le long des haies, là-bas tout au fond, dans les campagnes profondes, dans le désert. Va vers ceux qui sont plus récupérables, qui sont trop loin, qu'on ne peut plus atteindre, qui n'espèrent plus revenir, qui se sont perdus. Va les chercher, tous, et ramène-les tous ici, dans ma maison. » Et c'est ce qui a été fait. Certains sont revenus des profondeurs de la drogue, des profondeurs de la violence, des profondeurs du mensonge, du mal, profondeur de l'égoïsme. Certains sont revenus de très loin. Ils étaient arrivés dans les profondeurs et le Seigneur les a fait remonter dans sa maison familiale, paternelle, amicale. Ils se sont laissés saisir. J'aime bien ce verset de la Bible. Tu m'as saisi et je me suis laissé saisir. Parce que on travaille à deux dans la vie. Il y a le serviteur qui dit « Venez, tout est déjà prêt. » Mais il faut dire oui quand même. Et c'est pourquoi Jérémie le prophète dit « Tu m'as saisi, mais j'aurais pu me débattre. Je ne veux pas de cette religion. Je ne veux pas m'embarrasser la vie. Je préfère vivre et mourir plutôt que de m'embarrasser avec l'amour de Dieu. » On peut se débattre, mais Jérémie dit « Tu m'as saisi et je me suis laissé saisir. Tu m'as appelé le long des haies. Tu m'as appelé dans ma pauvreté, dans mon infirmité, je me suis laissé attirer. » Eh bien, je vous souhaite, mes amis, je vous souhaite de répondre à l'invitation du Christ. C'est la même pour tous. C'est la même pour les premiers invités, c'est la même pour les derniers. C'est la même pour Israël, c'est la même pour nous, pour Abraham, pour Moïse, pour Marie, pour Pierre. C'est la même. C'est le même chemin, c'est le même Dieu, le même Christ, le même royaume. On est tous semblables, on est tous aimés de la même façon. Le Seigneur n'a pas de préférence. Le Seigneur ne méprise aucun misérable. Il n'a pas de mépris pour les misérables. Il ouvre ses bras, il ouvre ses portes. Venez, c'est déjà prêt. Le pauvre, le riche, l'orphelin, le comblé, tous, nous sommes tous appelés à être enfants de Dieu. Amen. Eh bien, nous allons ensemble incliner nos têtes et prier le Seigneur. Afin, comme dit la prophétie du prophète Ésaïe, en ce jour-là, je recueillerai les boiteux. Voilà le serviteur qui passe dans les places de la ville. Je recueillerai les boiteux. Je recueillerai ceux qui ont été chassés. Ils ont été chassés par les nantis, par les grands, ils ont été humiliés, je les rassemblerai et il n'y aura plus personne pour les troubler parce que Dieu nous aime tous d'un amour semblable, identique. Nous allons prier le Seigneur. Nous sommes devant cet appel magnifique qui retentit de la croix de Jésus. Venez à moi. Vous tous fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Cet appel magnifique de la parabole, tout est déjà prêt. Tel que nous sommes, sans rien à nous, sans rien donner, tu nous accueilles, tu nous attires, tu nous acceptes. Seigneur, nous voici aujourd'hui. C'est le même appel, c'est la même promesse, le même héritage. C'est le même repas. Tu nous appelles, Seigneur. Nous voici. Nous voulons suivre tes enseignements, faire confiance au Christ crucifié, ressuscité, porte du ciel, pont vers le ciel, souffle magnifique qui nous aspire dans le ciel. Nous voulons faire confiance à Jésus, parce qu'il n'y a pas d'autre qui nous a été donné sur la terre. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun ne peut faire ce travail d'aller de maison en maison, de cœur en cœur, pour dire à chacun, tout est déjà prêt, venez. Nous venons, Seigneur, nous voici tels que nous sommes. Amen.